Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Un des problèmes au sujet duquel on se pose peut-être le plus de questions est sans conteste celui de la souffrance humaine. Pourquoi l'humanité doit-elle souffrir? Pourquoi les soucis et les désillusions existent-ils? Et la maladie et la mort? Pourquoi l'innocent doit-il souffrir? Souvent, nous nous demandons comment il se fait que Dieu, qui pourtant nous aime tant, permette que la souffrance passe le seuil de notre maison. Parfois, nous en arrivons à poser des questions suite à la mort d'un être cher. Il arrive également que ce soit à cause d'une longue et douloureuse maladie que nous nous trouvions confrontés avec le problème de la souffrance humaine. Une explication veut que la souffrance soit le résultat du propre péché de l'homme. Elle contient assez de vérité pour qu'il soit assez aisé de croire qu'elle renferme tout le nœud du problème. En regardant autour de soi, on a tout fait de découvrir qu'en effet, il ne manque pas d'éléments qui pourraient éventuellement servir à démontrer cette théorie. Celui qui boit en paie les conséquences, ainsi d'ailleurs que celui qui fait mauvais usage de son corps ou de certains de ses organes. Le menteur, le tricheur, l'hypocrite souffrent également à cause de leurs vices ou de leurs défauts. Cependant, ce serait tirer d'une conclusion par trop hâtive de dire que là réside la réponse au problème. Cela peut à la rigueur expliquer le pourquoi d'une partie de la souffrance humaine, mais certes pas de toute la souffrance. Pensons aux innocents qui souffrent sans pourtant être responsables d'aucune faute ni d'aucun péché. Job, dont on nous parle dans l'Ancien Testament, en est un exemple typique. Un des thèmes du livre de Job est précisément basé sur une telle argumentation. Ses amis lui disent en effet sans cesse, « Job, tu dois avoir beaucoup péché pour être affligé de la sorte. » Ce à quoi il répond invariablement, « Mais non, je n'ai nullement péché, je suis complètement innocent. Il doit y avoir une autre explication à donner à mes souffrances, à mes tourments. » Job avait raison en disant cela. En effet, dans le 13e chapitre de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 1, le Seigneur touche précisément à ce problème quand il dit, « Qu'en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. » En s'exprimant ainsi, Jésus dit tout simplement que ces catastrophes ne leur sont pas arrivées à cause de leur péché, ou bien parce qu'ils étaient plus mauvais que d'autres. Le même sujet est d'ailleurs traité brièvement dans l'Évangile selon Jean, où Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. » Il est donc clair, vu l'autorité finale des paroles de Jésus, que nous ne pouvons considérer l'idée que le péché renferme toute la raison de l'existence de la souffrance. Certains avancent encore la théorie selon laquelle Dieu ne peut rien faire à ce sujet. Il ne désire pas que l'on souffre, parce qu'il est infiniment bon, mais il se verrait impuissant à l'exclure du monde. À nouveau, cela peut paraître vrai. On pourrait se dire, après tout, si Dieu éprouve un amour sans borne pour ce qu'il a créé, c'est-à-dire l'univers et l'homme, et si Dieu est tout-puissant, il semble qu'il ne devrait pas exister de souffrance à la surface du globe. Il faut cependant examiner cette argumentation plus attentivement et tenir compte de tous les facteurs qui se trouvent être en jeu. La Bible indique clairement que Dieu est, en fait, plus puissant que nous ne pouvons même l'imaginer. Rappelons-nous l'histoire des trois compagnons de David, qui, avant d'être jeter dans la fournaise, avait exprimé cet axiome « Notre Dieu peut nous délivrer ». Il voulait dire par là que Dieu, s'il le désire, est à même de pouvoir réaliser ce qu'il veut. Dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 19 et verset 26, Jésus ne s'écrit-il pas également « À Dieu, tout est possible ». Nous ne pouvons par conséquent pas accepter l'idée que le mal et la souffrance n'existent tout simplement que parce que Dieu est incapable de nous en débarrasser. Et la première des choses que nous pouvons remarquer à la lueur de la Bible, c'est que Dieu est tout-puissant et peut accomplir ce qui correspond à sa propre volonté et à sa propre nature. Je m'explique. Cette limitation n'est pas imposée à Dieu par des éléments extérieurs indépendants de sa volonté, car en effet, aucune force de l'univers ne peut arriver à imposer une limite à sa puissance. Les seules limitations de cette puissance, il se les impose lui-même. Cela également mérite d'être expliqué plus profondément. La nature de l'univers que Dieu a conçu et créé l'empêche en réalité de faire des choses opposées entre elles. Il ne peut par exemple être à la fois présent et absent, créer une montagne qu'il ne pourrait gravir, ni un trou qu'il ne puisse combler, et encore moins, et ceci est peut-être enfantin à dire, encore moins faire un rond carré. Nous pouvons également affirmer que Dieu ne peut être limité ni par Satan, ni par aucune autre force, mais que lui-même a d'office inclus certaines limitations à sa puissance lorsqu'il a créé le monde. La Bible parle d'ailleurs de certaines de ces impossibilités. En Hébreux chapitre 6 et verset 18, par exemple, il nous est dit qu'il est impossible que Dieu mente. Et en Jacques chapitre 1 et verset 13, que Dieu ne peut être tenté par le mal et qu'il ne tente lui-même personne. Cela signifie tout simplement que quand Dieu a créé l'univers, il l'a fait de telle manière que, sa nature étant ce qu'elle est, certaines choses soient impossibles. Cela ne constitue pas en soi une limite à ce que Dieu peut ou ne peut pas faire dans le sens extrême, mais plutôt une limitation imposée à la fois par la nature et la volonté même de Dieu. Ceci étant exposé, nous sommes maintenant, je pense, préparés à mieux comprendre l'idée qui veut que quand Dieu a créé l'homme, il en a fait un être doté d'une liberté totale de choix, de discernement et de volonté. Cet être peut donc librement choisir entre le bien et le mal, car il n'est nullement un automate ou un robot qui serait obligé d'agir selon un programme donné. Par conséquent, quand l'homme choisit d'aimer Dieu, cela présente pour lui une signification profonde. De même, de par cette liberté, il a également la faculté de faire des erreurs, des bévues et de faire un mauvais choix. L'histoire nous prouve amplement, hélas, que l'homme a souvent usé de cette faculté dans le mauvais sens, ce qui a eu pour résultat de le faire souffrir. La deuxième des choses à remarquer est celle-ci. La nature même de l'univers nous aide à expliquer la souffrance. Pensons à ce que l'on appelle communément les lois de la nature. En considérant l'univers dans son ensemble, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un système de lois et d'ordre. Un système dans lequel tout est et doit être fidèle. Il existe en effet une uniformité certaine dans les lois naturelles de notre globe. Cela doit être ainsi car sans cela, notre monde ne pourrait subsister. Les principes qui sont valables aujourd'hui doivent encore l'être dans un an ou même dans 10 ans. Cette uniformité, ce système de loi et d'ordre, est également en étroite relation avec la souffrance que l'homme peut parfois endurer. Prenons par exemple le feu. Les lois naturelles de l'univers que tu as créées comprennent certains principes qui rendent possible à l'homme, s'il emploie les bons éléments et les bons procédés, de créer le feu. Cependant, la même loi qui nous permet d'avoir du feu pour cuire nos aliments et pour nous chauffer, nous permet également d'avoir du feu capable de brûler nos maisons et de détruire nos vies. Parmi les grandes choses que l'homme a pu accomplir, se trouve sans conteste la production de moyens de locomotion et notamment de l'automobile. Cependant, une voiture qui normalement doit servir à améliorer le confort de l'homme peut également devenir un engin de mort. De même, l'acier rend possible la construction de magnifiques ouvrages d'art, mais intervient aussi, par contre, dans la fabrication de fusils et de chars d'assaut qui, en cas de conflit, sèment la destruction et la souffrance. Les principes mêmes de la nature, à condition d'en faire bon usage, peuvent être la source d'un grand bonheur. Mais par contre, si l'on en fait mauvais usage, ils portent en eux l'antithèse du bien, c'est-à-dire le pouvoir de détruire ou de faire souffrir. Une partie de football ou de rugby ne peut se jouer si les règles ne sont pas établies à l'avance et respectées par les deux parties. De même, le monde dans lequel nous vivons ne peut en quelque sorte fonctionner que si les lois qui le régissent restent constantes et qu'on y demeure fidèle. Quand l'être humain fait bon usage des lois que Dieu a établies pour la nature, il prospère et est heureux. Par contre, s'il en fait mauvais usage, il souffre. Appliquons maintenant ce que nous venons de parler au problème de la souffrance. Quand Dieu a créé l'homme en faisant un être libre, il a en même temps ouvert la porte à la souffrance. Il n'aurait pas pu en être autrement. Dieu, en créant l'univers, a permis à l'homme de faire usage de cette liberté pour trouver le bien. Mais il a en même temps, et inévitablement, inclus également la possibilité du mal et de la souffrance. Pourquoi l'homme souffre-t-il? Souvent parce que ses ancêtres, son prochain en général, ou peut-être lui-même, ont mal employé leur liberté. Dans une certaine mesure, il a violé certaines des lois divines et a ainsi détruit ce que Dieu désirait parfait et complet. Je réalise parfaitement que je n'ai fait qu'effleurer le sujet de la souffrance. Et je vous propose de poursuivre notre entretien sur ce sujet la semaine prochaine en envisageant d'autres aspects de la question, comme par exemple, la souffrance est-elle nécessairement mauvaise? Elle peut être un remède et parfois même nous aider.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement s'entend car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.
Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur m'aime, pour la souveraine, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime.